Un essaim sismique. Qu'est-ce que ça m'inspire? Ça m'inspire que nous ne sommes pas grand-chose par rapport à la vie de la planète qui fait sa vie et qui ne s'occupe pas de savoir si on est là ou pas.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Zoom Zoom Zen, émission dont je me permets de rappeler le cahier des charges, puisqu'après 518 numéros, c'est visiblement important de faire un petit point. Zoom Zoom Zen, 2 heures chaque après-midi pour décrypter un mot ou une expression dans l'air du temps. Alors c'est une info que j'avais pas vu passer ce matin, mais visiblement la drogue a été légalisée en France. En tout cas, en croire le thème que notre rédacteur en chef a choisi pour notre émission du jour, qui n'a raisonnablement pas pu être choisie sans l'intervention à un moment ou un autre, soit d'une grande quantité de cannabis, soit carrément, si Gérald, mon auteur, s'en est mêlé, d'une pipe à crack, bourrée à bloc. Puisqu'on va zoomer cet après-midi sur cette expression qui a envahi les médias depuis quelques jours, cette expression que vous entendez à chaque pause café entre collègues, oui, zoom aujourd'hui sur la notion d'essaim sismique. C'était donc de la non-coupée. À moins bien sûr que derrière son apparente folie, Cyril n'ait en fait tapé juste. Après tout, il a souvent tapé juste. Certaines de ses ex peuvent en témoigner. Mais oui, si on zoome cet après-midi sur ce phénomène d'essaim sismique, c'est qu'il inquiète de plus en plus la communauté des sismologues. Car qu'est-ce qu'un essaim sismique? Oui, mais pourquoi vous riez? C'est très dangereux, un essaim sismique.
Oui,
vraiment,
bien sûr,
non,
bien sûr.
Oui. Qu'est-ce qu'un essaim sismique? Eh bien, c'est par exemple ce qui s'est passé dernièrement à Santorin. La Terre qui tremble, non pas une fois très fort avec ensuite des répliques, mais qui tremble des centaines de fois avec des intensités diverses. C'est ça, l'essaim sismique. Et le problème, c'est qu'il est beaucoup plus difficile à anticiper qu'un tremblement de terre classique comme on en a chez nous. Par exemple, il y a quelques jours, la Terre a tremblé à Nice. Christian Estrosi, heureusement, est intact. Merci Dieu, nous disait Cyril, qu'il avait tout de suite appelé pour savoir si ça allait. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je vais bien, avait dit Estrosi. La mauvaise, c'est que Ciotti aussi. Oh, ils avaient rigolé ensemble pour dédramatiser. Alors, c'est quoi un essaim sismique? Comment ça marche? Peut-il y en avoir en France? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Bonjour Guy Sénéchal.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Guy, vous êtes en duplex du studio d'ici Berne Bigorre à Pau, tout proche de Naï, où je passais mes vacances quand j'étais petit. Je suis donc ému. Vous êtes sismologue, enseignant-chercheur à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, spécialiste des tremblements de terre dans le Béarn. Vous considérez d'ailleurs les Pyrénées comme la zone la plus sismogène de France métropolitaine. On va y revenir, vous nous expliquerez pourquoi. Vous allez surtout nous expliquer ces fameux essaims sismiques qui nous intéressent aujourd'hui. Juste le temps de vous présenter deux journalistes qui, eux, ne tremblent jamais, sauf Manon, quand elle est en manque de jeans. Manon Mariani, quant à lui, bonjour.
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 Bonjour à tous.
Bonjour, bonjour.
Manon, chaque après-midi, comme vous avez aussi soif de connaissances,
oui,
vous nous aidez à aller plus loin sur notre sujet du jour en nous représentant la personne à suivre. Laissez-moi deviner aujourd'hui, Haroun Tazieff.
Je ne sais pas qui est cette personne.
Et pour cette génération perdue, Haroun, c'est un humoriste, pas un vulcanologue.
C'est pas Haroun Tazieff.
Pas Haroun Tazieff, c'est terrible. Manon, de qui nous parlez-vous?
C'est qui, pardon?
C'est un grand spécialiste des volcans qu'on voyait toujours sur TF1 dans les années 80-90.
Ah oui. Oui, enfin même pas forcément que sur TF1. Il était
connu.
Oui,
d'accord. Ok, c'est une personne. D'accord.
Okay, oui.
Bon, je ne vais pas vous parler de lui. Petit twist aujourd'hui dans ma personne à suivre, puisque je vais vous parler d'une photographe qui a une passion: chasser des orages.
Ah oui, c'est un petit pas de côté alors, très bien. Lui, Guy, il devrait s'y connaître en sismologie puisqu'il a longtemps été le référent évacuation d'urgence de tout le 6e étage de France Inter. Heureusement, il ne s'est jamais rien passé.
Parce que sinon,
les experts estiment qu'il y aurait eu environ 30% de pertes humaines. Chaque après-midi, vous partez à la rencontre des passants pour les faire réagir à notre thème du jour. Et justement, aujourd'hui, c'est vous qui avez trouvé ce thème.
Oui.
Et c'était donc la première fois que je vous voyais pleurer d'avoir choisi
un
thème.
Mais j'ai vu Guy, notre invité, en pleine page de la Nouvelle République des Pyrénées, une star locale hein, donc, qui fait parler des essaims sismiques. Mais est-ce que les gens dans la rue connaissent?
Non.
Bien, figurez-vous qu'il y a plus de gens qu'on pense qui ont assisté à un tremblement de terre.
Ah, c'est déjà ça. Vers 16h30, vous aimez les mythes, vous aimez les tremblements de terre. Que diriez-vous de découvrir les mythes autour des tremblements de terre? Soyez prêts, car comme me l'avait écrit Gérald, mais je l'ai enlevé parce que je me respecte un minimum, le Zoom Zoom Test va secouer. Juste avant 17h, nous serons rejoints par Karim Duval. Mais d'abord, plongeons dans notre sujet du jour. Guy Sénéchal, est-ce que la France est à l'abri de ces fameux essaims sismiques ou pas du tout?
Alors non seulement elle n'est pas à l'abri, mais nous avons des essaims sismiques hein, depuis pas mal d'années. On en observe aussi bien dans les Pyrénées que dans les Alpes. C'est un phénomène qui s'observe un peu partout à travers le monde.
Et pour l'instant, alors pas trop, les secousses ne sont pas trop fortes?
Non, c'est même la caractéristique d'un essaim, souvent, c'est que c'est rien de plus qu'une activité sismique locale, particulièrement intense pendant un certain temps, que ça peut être quelques jours, quelques semaines, quelques mois, mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir un gros séisme, et inversement, on peut avoir de très gros séismes sans essaim.
Alors, vous allez tout nous expliquer. Il y a quelques jours de ça, la mort dans l'âme, Cyril Lacarrière appelait le service assurance d'American Express pour annuler son séjour au Four Seasons de Santorin. C'était pas remboursable ni échangeable, tant pis. La sécurité de mes proches d'abord, je suis pas à 17 000 euros près, Inch'Allah, nous confiait Cyril. Quand même un peu écœuré par ces secousses. Cyril, maintenant que vous avez fait votre deuil de ce voyage, racontez-nous les essaims sismiques, d'où ça sort.
Lundi 24 mai 2024, Pouzzoles, près de Naples, la terre tremble, pas une fois, mais 160 fois. 160 tremblements de terre sont enregistrés cette nuit-là. C'est ça, un essaim sismique. En fait, ces essaims, c'est un phénomène qui existe depuis longtemps, mais qui a souvent été mal compris pour une raison simple. Ça ne commence pas comme un tremblement de terre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abord le gros séisme, le big one, puis les répliques. Avec les essaims, on parle d'autre chose. Selon certains experts, ça ressemblerait à une sorte de grésillement tectonique où toutes les secousses seraient de taille similaire. Plus compliqué encore à comprendre, on ne peut pas prévoir combien de temps va durer cette série de séismes. Plusieurs jours, plusieurs mois, voire plusieurs années. Par exemple, à ce jour, impossible de savoir ce qu'il en est du dernier en date à Santorin, dans les Cyclades, c'était en février. Il y a eu plus de 19 000 tremblements de terre en l'espace de 20 jours et rien, à ce stade, ne dit qu'il n'y en aura pas d'autres.
Et est-ce qu'on connaît ce qui provoque ces essaims sismiques ?
De nombreuses causes semblent en être à l'origine, et notre invité va les détailler. Le glissement d'une faille rocheuse, la pression sur l'eau ou sur le magma, et même l'activité humaine pourrait être un facteur. Quand Donald Trump dit « drill, baby, drill », on va forer, bébé, on va forer, eh bien, ce n'est pas sans incidence sur ce qui se passe sous la Terre. Alors, comment prévoir ces essaims sismiques ? Est-ce qu'ils vont se multiplier ? Est-ce qu'ils sont dangereux ? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril, mais il s'est passé quelque chose d'historique dans ZoomZoom. Pour la première fois, vous avez prononcé une expression anglaise avec un bon accent.
C'était super.
On aurait presque dit que vous parliez vraiment
mots,
anglais.
C'est trois mots, ça va.
Oui, mais c'était quand dur
c'est
à dire.
Fou, c'est moins un quiz.
Oui, vous avez raison.
Il est jaloux.
Vous avez raison Cyril. Merci Cyril. Guy Sénéchal, j'ai l'impression qu'il reste beaucoup de mystères autour de ces essaims sismiques, même pour vous, les spécialistes, ou bien vous avez quand même tout compris au phénomène ?
Ah non, le scientifique, il continue désespérément à se poser des questions, et c'est même notre raison d'être. On n'a jamais aussi bien compris ce qui se passe, ce qui ne veut pas dire qu'on a tout compris, que ce soit sur les essaims sismiques ou sur la sismicité en général.
Cyril nous disait qu'on ne savait pas encore ce qui s'était passé à Santorin en février dernier. Ça, c'est, vraiment, ça a fait la une de tous les journaux. C'est assez impressionnant. Les gens ont fui l'île de Santorin. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Est-ce qu'on a quand même un début de réponse ?
Oui, on est dans une région, hein, la mer Égée, qui a une sismicité particulièrement importante, hein, en permanence. Donc elle est très bien instrumentée. On a en permanence des capteurs sismiques qui enregistrent cette sismicité. Et on s'est rendu compte en début d'année, en effet, d'une augmentation très locale de cette sismicité. Alors comme toujours, quand on ne sait pas exactement ce qui se passe, quand on observe quelque chose d'inhabituel, eh bien on se méfie, on prend quelques précautions, d'où le côté un petit peu évacuation, alerte à la population. Puis après, on rentre dans une phase d'observation. Et la phase d'observation, eh bien, elle doit être relativement longue si on veut comprendre ce qui se passe. Et cette phase-là n'est pas terminée. Donc au fur et à mesure que l'on observe, on élabore des scénarios, on essaye de rattacher nos observations à des processus déjà connus. Et aujourd'hui, on va dire qu'on commence tout doucement à comprendre un peu ce qui est en train de se passer, mais on est loin d'avoir la réponse à toutes les questions.
Mais alors, qu'est-ce qui provoque ces fameux essaims sismiques qui sont différents d'un endroit à l'autre du globe ? Cyril commençait à ébaucher une réponse. Qu'est-ce qui se passe ? C'est en sous-sol ? Comment ça se passe ? Décrivez-nous.
Alors, pour bien comprendre, il faut avoir un peu une vision d'ensemble de ce que l'on a en effet sous les pieds. Hein, quand on prend la croûte terrestre, hein, les premières dizaines de kilomètres qui sont fracturées, cette croûte, elle craque en permanence. Hein. Il faut bien avoir en tête que la sismicité, à l'échelle mondiale, c'est une activité permanente. Hein. Toutes les secondes, quelque part, on a un séisme. Si je prends simplement les Pyrénées, c'est plusieurs tremblements de terre par jour. Ah. Simplement, l'essentiel de cette sismicité est si faible que la société ne s'en rend pas compte. C'est pour ça qu'il y a toujours une surprise. On a l'impression que le séisme est un phénomène exceptionnel. Non, le séisme est un phénomène on ne peut plus banal. C'est vraiment quelque chose, c'est un processus permanent. Ce processus permanent, il résulte essentiellement de la tectonique des plaques, c'est-à-dire ces mouvements très lents, très progressifs de notre écorce terrestre qui est fragmentée en un certain nombre de plaques qui vont laborieusement glisser les unes contre les autres. Donc ça, ça explique l'essentiel de la sismicité. Mais ce phénomène, il n'est pas régulier. C'est un phénomène naturel, donc on a des périodes avec un petit peu plus de sismicité, un petit peu moins de sismicité. Là-dessus, va se rajouter d'autres phénomènes, essentiellement la circulation de fluides. Alors un fluide, c'est quoi ? Ça peut être des liquides, comme de l'eau, essentiellement. Ça peut être de l'huile, ce qu'on appelle communément du pétrole. Ça peut être un gaz naturel de toutes sortes. Et lorsque ces fluides se mettent en action, ça peut être un magma, hein, au passage. Quand ces fluides se mettent en action, ils vont localement perturber les contraintes, c'est-à-dire les forces en présence. Et bon nombre d'essaims de sismicité qu'on observe aujourd'hui à travers le monde, on les rattache à ces mouvements de fluides. Hein. C'est l'explication en général mise en avant.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Depuis que la Terre a tremblé à Nice et ma grand-mère avec, la France a peur.
La France a peur.
Oui. Voilà pourquoi on zoome cet après-midi sur un phénomène retors. Effectivement, je l'embrasse. Celui des essaims sismiques. Le sismologue Guy Sénéchal est avec nous, toujours depuis le studio de nos amis d'ici Berne, Bigorre. Guy, Cyril nous disait tout à l'heure que les projets de forage lancés notamment par Donald Trump pouvaient avoir des incidences et provoquer des séismes. Alors peut-être pas provoquer des séismes, mais avoir une incidence. C'est vrai ça ? Il y a une part de vérité là-dedans ?
Oui, la sismicité, on va dire qu'on peut la dissocier en deux familles. Il y a la sismicité d'origine naturelle, on vient d'en parler, la sismicité tectonique, géologique. Et il y a ce qu'on appelle la sismicité anthropique, c'est-à-dire le fait que l'activité humaine va provoquer des séismes. Alors, comment est-ce qu'on provoque des séismes ? La manière la plus simple, c'est de manipuler des fluides. On en revient toujours aux mêmes choses. Ces fluides, à nouveau, ça peut être du gaz, du pétrole, du CO2, de l'eau. Donc, que l'on retire ou que l'on injecte un fluide, on va modifier les contraintes en profondeur. C'est quelque chose de connu depuis plusieurs dizaines d'années. Hein. Il y a rien de nouveau là-dessus. On en a de très beaux exemples en France. Le gisement de gaz de Lacq, depuis les années 70, voilà, se traduit par une activité sismique, un essaim de sismicité très très bien marqué, qui perdure encore aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il n'est pas lié à l'exploitation du gisement, il est lié à l'injection des eaux usées, mais on est toujours sur un mouvement de fluide. On a aussi eu, il y a quelques années, une activité sismique du côté de Strasbourg, liée à la géothermie. Donc ce qui se passe aux États-Unis, voilà, c'est à partir du moment où on va exploiter des hydrocarbures, alors c'est pas le fait qu'elles soient des hydrocarbures, hein, on aura compris que c'est le fait qu'elles soient des fluides, on va modifier les contraintes à faible profondeur et ce qui va induire des séismes, en effet.
Voilà. Qu'est-ce qui fait le plus de dégâts, un essaim sismique sur plusieurs jours ou plusieurs mois, plusieurs années, ou un énorme séisme, mais en une fois ?
Alors le problème des dégâts, c'est que ça dépend de la vulnérabilité des bâtiments.
Ouais.
C'est ça, la question en fait, voilà, tout dépend. Si vous avez un bâtiment extrêmement vieux, vulnérable, extrêmement fatigué, il n'y a même pas besoin d'un essaim, hein. Quelques petits séismes vont l'affecter. Ce que l'on peut dire, c'est qu'en général, quand même, les essaims sismiques correspondent à des activités de magnitude modérée. Donc c'est vrai que là où on a eu jusqu'à ce jour le plus de dégâts, c'est plutôt le processus classique d'un gros séisme suivi d'une série de répliques. Le gros séisme délivre beaucoup plus d'énergie qu'un essaim.
Je lisais, Guy, qu'il est rare qu'un séisme de forte magnitude survienne après un essaim sismique. C'est plutôt une bonne nouvelle. Pour quelle raison ?
Non. Alors là, je... Non, je dirais que malheureusement, en sismologie, on n'a pas de scénario type. Je pense qu'à ce jour, on a observé un petit peu tous les cas de figure, c'est-à-dire une montée en puissance de la sismicité, donc ce qu'on pourrait appeler après coup un essaim, qui va finalement ne rien donner, qui va s'arrêter, hein, c'est ce qu'on observe souvent. D'autres fois, on va voir un essaim se développer qui va donner un gros séisme, et à ce moment-là, on dira après coup qu'on avait des précurseurs. Et certaines fois, en effet, il se passe strictement rien, et tout d'un coup, ça craque. Tout d'un coup, un très gros séisme, suivi d'une série de répliques. On a vraiment tous les processus, et c'est pour ça que la prévision de tremblement de terre est vraiment quelque chose qui, à ce jour, ne fonctionne pas.
Lui, son transfert de France Bleu Paris à France Inter avait été un séisme dans le monde de l'audiovisuel. C'est
ça.
Un aventurier qui, contrairement à Cyril et moi, n'a pas peur d'aller au contact de nos auditeurs. Quentin, ce terme dessin sismique, oui. Quelque chose me dit qu'il n'a pas été simple à expliquer aux gens dans la rue.
Mais non, moi j'ai adoré ce sujet. Et puis, à cœur vaillant, rien d'impossible. Paul marche dans la ville avec sa chienne de 15 ans. Elle s'appelle Enjoy. C'est donc pas au pas de course qu'il traverse le quartier. Ça nous laisse le temps de discuter. Il voit le micro France Inter. Petit sourire en coin, il me dit que ça va forcément être politique. Détrompez-vous, Paul.
Un dessin sismique. Qu'est-ce que ça m'inspire? Ça m'inspire que nous sommes pas grand-chose par rapport à la vie de la planète qui fait sa vie et qui s'occupe pas de savoir si on est là ou pas. C'est des problématiques pour nous. C'est peut-être à nous de se dire est-ce qu'on s'adapte ou pas aux dessins sismiques.
Si je vous suis un peu, si on sait qu'il y a des plaques qui bougent, etc., c'est peut-être à nous de partir et de pas vivre ici, quoi.
Qu'est-ce que vous voulez faire avec les plaques qui bougent? Vous voulez les souder?
Bon, pourquoi pas. Mais alors effectivement, si on commence à parler de lieux plus habitables, ça veut dire que des migrants sismiques pourraient arriver, et là, ça peut devenir politique.
C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que c'était politique, à mon avis. Mais là, qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez quoi, vous, comme autre solution? C'est des mouvements, c'est des flux. Mais le monde se fait par des flux, hein, que ce soit des flux terrestres ou des flux humains, le monde n'est fait que de flux.
Flux alors ?
Flûte.
Ce jeune homme marche d'un pas décidé. Il a un sac à dos, une paire de chaussures qui pendouille derrière. Bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom ?
Je m'appelle Louis.
Louis ? Comment vous êtes équipé, vous ?
Du coup, j'ai des chaussures d'escalade sur moi. Là, je reviens du bloc. J'ai fait du bloc. Je sais pas si tu vois ce que c'est.
Si, c'est sans corde dans
exactement.
Une salle, quoi.
Voilà, c'est ça. Petite session matinale, j'y suis à la 8h30.
Je lui fais lire l'article du magazine Géo. Plus de 19 000 séismes enregistrés en 3 semaines dans les Cyclades.
Putain. Ok, mec, j'ai pas du tout vu. Il y a eu 19 000 séismes... Ok. Je digère l'info.
Oh, quel drama, cette Gen Z. J'explique à Louis que toutes les secousses enregistrées ne sont pas des catastrophes à chaque fois. Il m'explique pourquoi il doit digérer.
Là, je pars en stage grimper en Grèce là, le mois prochain avec un prof d'escalade qui du coup fait des stages lui-même, il les organise lui-même. Il y a pas mal de stages comme ça, c'est en Grèce, c'est sur une île en Grèce. Et ça s'appelle Kalymnos, on va grimper pendant une semaine en grande voie. En vrai, autour de moi, le seul vraiment contact avec la nature que j'ai, c'est ce sport, je pense. Et aller faire de l'extérieur, c'est un vrai délire. Il y a vraiment une conscience écologique de ouf dans ce sport. Et rien que vis-à-vis du rocher, de le respecter et tout. Ça me choque, quand j'étais petit, j'étais fasciné par les séismes. Et là, ça me terrifie quoi, de savoir qu'on enregistre autant de trucs et...
Tu pars quand en Grèce là ?
Moi je pars le mois prochain là.
J'espère que ça va pas bouger quand tu...
J'espère pas non plus.
Quand tu vas monter.
En hauteur en tout cas ça me ferait un peu flipper. Tant qu'il y a la corde et que ça assure bien en bas ça va mais...
Bon c'est sûr il est de la famille de notre réalisateur Justin Fontana.
Oui,
certains ça part en séminaire yoga à Fontainebleau tout ça. Le temps passe et toujours pas de témoignage de tremblement de terre. Alors je me mets en mode tout venant comme on dit avec le C. Cyril Lacarrière notre rédac chef. Et puis à un moment ce monsieur, vous avez déjà vécu un tremblement de terre ?
Oui, dans les Pyrénées je crois que c'était Arrête. J'étais au 6e étage de l'hôtel. Je me suis dit, soit je descends par la façade, soit je descends par l'escalier. J'ai descendu 6 étages, sans lumière, sans rien du tout. Et j'étais le premier milieu de la place. Il y a eu le village dans les Pyrénées, il avait été secoué.
Quelle sensation ça fait d'assister, hein, de vivre un tremblement de terre ?
On se pose des questions. Donc la question, c'était l'immeuble il casse ou il tient ? Je ne choisis pas, je descends.
Il y a un mode survie qui s'active ?
Immédiatement. Moi, ça a été immédiat.
Gatien, lui, est beaucoup plus jeune. Il est étudiant, il témoigne à son tour.
J'étais au Japon quand il y a eu le séisme, le 1er janvier l'année dernière.
Raconte-nous.
J'étais dans la gare, on reçoit tous un message en même temps sur nos téléphones qui disent de se protéger, de rentrer dans un bâtiment. Et on sent que ça tremble un peu, on voit les pancartes bouger un peu, mais on avait un peu peur, mais sinon les Japonais autour, vraiment, ils s'en foutaient, quoi.
Ah ouais.
Ouais. Après, on a vu des vidéos de là où il y a eu l'épicentre, du coup, plus vers les Alpes japonaises. Et là, ça a bien bougé, il y a eu plusieurs morts. Et... Ouais.
Ma dernière rencontre, c'est Olivier, à qui je montre la une de la Nouvelle République des Pyrénées du 4 février dernier, où Guy Sénéchal dit en lettres capitales « On n'a jamais été aussi proche d'un prochain séisme d'exception ». Réaction de ma dernière rencontre.
Ah ça, j'en sais rien. Il y en aura un forcément en Californie, mais quand ? Parce qu'il y a la grande faille là, qui s'écarte toujours. Ça sera un super tremblement de terre, là. Ça risque d'être catastrophique. Vous savez, en France, on construit en règle antisismique dans le sud de la France. Hein.
C'est-à-dire que l'immeuble tremble avec oui. la terre, quoi.
C'est fait exprès.
La Californie, la Grèce, le Japon, les Pyrénées. En marchant vers la maison de la radio, je repense à Paul et à son vieux chien qui me disait qu'il pourrait y avoir des migrants sismiques si ces essaims, à l'avenir, devenaient inhabitables. À l'heure où les frontières bougent, est-ce que malgré nous, les séismes ne vont pas rebattre les cartes ?
Guy Sénéchal, une question importante. Est-ce qu'il est encore temps d'aller faire un petit voyage à Los Angeles ? Ou alors, là, depuis le temps qu'on en parle, ce tremblement de terre-là, il va finir par arriver ?
Alors, on va dire qu'on est sur un biais de communication. Ah. Les Américains sont très forts là-dessus. Ouais. Car, en effet, je crois que la Terre entière a en tête cette histoire de Big One californien. En fait, il faut avoir en tête que nous avons tous notre Big One. Vous pouvez aller au Chili, en Turquie, en Nouvelle-Zélande et en France. On est tous, non pas en train d'attendre, mais tôt ou tard, on sera en effet confronté à un séisme un peu plus fort que les autres. Hein. Ce que vous avez cité tout à l'heure, ça s'appelle une lapalissade. Hein. C'est que quand on ne peut pas prévoir un événement, tout au plus, on peut dire qu'on n'a jamais été aussi près du moment où il oui. arrivera. Les témoignages que vous avez donnés, ils sont symptomatiques d'une vision malheureusement biaisée de la sismicité. Je vais faire un parallèle rapide. Vous remplacez séisme par la pluie. Il pleut très très souvent, et c'est pas parce qu'il pleut qu'on a une catastrophe à chaque fois. Simplement, dès que trois gouttes d'eau tombent, on s'en rend compte. Donc on ne surprend personne en disant qu'il pleut assez souvent. Hein. Moi je suis dans le Béarn, je sais de quoi je parle. Les séismes, la différence, c'est que tant qu'on n'a pas atteint un certain niveau d'intensité, c'est-à-dire de ressenti, eh bien le séisme passe inaperçu. On a dans les Pyrénées de l'ordre de 1800 à 2000 tremblements de terre enregistrés chaque année. Il y en a à peine 50 qui sont ressentis. Et si je prends le biais médiatique, c'est-à-dire quand est-ce qu'on se met à parler de ces tremblements de terre, c'est moins d'une dizaine de fois par an. Donc on a ce sentiment que le séisme est un phénomène exceptionnel et que quand il a lieu, il est catastrophique, alors que c'est tout le contraire. On a en permanence une multitude de séismes. On va dire que pendant très longtemps, on a enregistré les tremblements de terre avec relativement peu de stations, donc on avait l'impression d'avoir une étendue de sismicité homogène tout le long des Pyrénées. Hein, je reste sur ce que je connais, sur les Pyrénées. Ces dernières années, à force de rajouter des capteurs, à force de densifier, on observe bien mieux cette sismicité et on a fini par isoler des secteurs qui tremblent plus que d'autres. Et c'est là où on en arrive à cette notion d'essaim. On parlait tout à l'heure d'Arrête, le séisme d'Arrête qui a eu lieu en 67. Eh bien, actuellement, on se rend compte que, et c'est sans doute comme ça depuis des dizaines et des dizaines d'années, il y a en permanence une activité sismique. Si on rajoute quelques stations du côté d'Arrête, on va se mettre à enregistrer des séismes tous les jours, tous les jours, tous les jours.
Mais est-ce que ce manque de connaissances, c'est dû au fait qu'on habite en France et que du coup, des séismes, c'est vrai qu'on a l'impression que ça se passe ailleurs que chez nous. Faudrait plus en parler, je sais pas, nous éduquer dans les écoles, par exemple ?
Alors, on n'arrête pas d'en parler. On n'arrête pas d'en parler au rythme des opportunités. C'est certain que pendant très longtemps, on n'a pas eu cette culture du séisme en France parce que seul l'outre-mer est confronté à une réelle sismicité en Martinique, en Guadeloupe, à Mayotte, éventuellement à La Réunion. En France métropolitaine, on a déjà eu des séismes exceptionnels, mais ils sont trop rares pour que la mémoire en ait gardé une trace vivante, on va dire. On parlait d'Arrête, 67, c'est la dernière fois qu'il y a eu un séisme vraiment majeur en métropole. Donc cette absence de sismicité ne favorise pas la culture, d'autant qu'aujourd'hui nous sommes confrontés à une multitude d'événements climatiques, des crues, des inondations, etc. Donc j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui le séisme il nous laisse tranquille. Et en plus, le séisme est un très bon client côté catastrophique. Hein. On a beaucoup de films catastrophes et une façon d'ailleurs de communiquer sur le séisme qui est qu'on n'en parle que si il se passe quelque chose de grave. J'en suis le premier à en souffrir. Hein. En général, c'est une exception aujourd'hui, mais en général, on ne m'interview qu'au lendemain d'un séisme majeur.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Impossible d'évoquer les tremblements de terre sans parler de Lourdes. Connue dans le monde entier pour ses apparitions de la Vierge, sa source miraculeuse, et Pierre Courade, notre rédacteur en chef adjoint, qui y a grandi, même si le mot est un peu abusif. Eh bien, sachez...
L'équipe de petits, quoi.
Il est plus petit que moi.
Sachez que... Alors, ne faites pas ça, Quentin, c'est très moche de se moquer de la taille. Eh bien, sachez que Lourdes serait également la ville de France ressentant le plus de secousses sismiques. Une légende locale dit même que la montagne tremblerait à chaque fois que l'abbé Chibrard et son disciple Courade se recueillent. 2000 séismes par an, quand même. Les mythes ont la vie dure. Ce Zoom Zoom Test sera l'occasion de découvrir d'autres légendes sismiques de par le monde. Partons d'abord pour cette région du monde. Partons pour cette région du monde que Cyril Lacarrière avait qualifié durant l'épreuve de géographie du bac de pays tout en haut, là où ils ont des saunas. Il avait eu 7. Puisqu'on parle plus fréquemment de la Scandinavie. Une vieille légende circule dans les fjords, selon laquelle le sol tremble à cause des bâillements de Lakaruk, le dieu de la colère qui se réveille pour punir les enfants turbulents. Terrible et tempétueux, Lakaruk. Mais dans cette contrée pleine de mystères, une légende plus ancienne encore expliquerait les tremblements de terre. Celle d'Elon Musk, le castor du cauchemar qui fait trembler le sol en rongeant les arbres. Celle de Jörmungand, un serpent géant monstrueux qui fait le tour de la terre en se mordant la queue. Ou celle de Rogaland, un géant qui frappe du pied pour faire sortir les enfants et les manger.
B.
Pour vous, c'est le géant qui fait sortir les enfants. Il mange les enfants.
Bah, peut-être, j'en sais rien, mais il tape du pied.
C'est dégueulasse. Et vous, Manon?
Oui, c'est le serpent qui se mord la queue.
Le serpent qui se mord la queue. Bonne réponse de Manon Mariani, représentée avec une gueule affreuse et un cou épais recouvert d'écailles.
On dirait
il se rapproche beaucoup du Lakaruk, d'ailleurs. Petite anecdote, Jörmungand est aussi le nom d'un porte-savon Ikea. Je vous laisse fact-checker, puisque vous êtes autant journaliste que moi, après tout. Et maintenant, direction l'Asie. Manon y est une véritable légende depuis son séjour en Corée du Sud l'été dernier. Là-bas, on évoque avec respect sa résistance à l'alcool local, le soju, d'où elle a tiré son surnom d'ailleurs, Sulwi Wang, la reine de la liqueur. Mais c'est au Japon que nous entraîne cette nouvelle question, car d'après vous, à quoi les Japonais attribuent-ils les séismes? Au grand silure, le poisson-chat géant qui vit dans les profondeurs et fait trembler le sol en bougeant? Au Tenyasan, le grand ver solitaire souterrain?
Oh.
Ou à la taupe sacrée, créatrice du mont Fuji?
B.
La taupe sacrée.
Vous dites quoi?
C'est pas une taupe qui a fait.
Qu'est-ce que vous m'avez répondu, Quentin?
B. La réponse B.
Le Tenyasan.
Tenyasan.
Non, mais c'est un jeu de mots avec le Tenya, c'est pas possible.
Ben,
c'est catastrophique. Bah, c'était évidemment la réponse A, évidemment. Je vous présente l'Onamatsu, ou grand silure, un gigantesque poisson-chat vivant dans les vases des profondeurs de la Terre, sur laquelle repose l'archipel du Japon et qui, selon la croyance ancestrale, serait à l'origine des séismes ou pourrait les prédire. Une légende somme toute assez proche de la tradition chinoise dans laquelle le responsable des séismes, c'est le tigre ancestral, le dragon géant ou les nouilles du Sichuan, du restaurant 3 fois plus de piment que je salue, même si mardi ils ont oublié de me mettre les raviolis pékinois que j'avais pourtant commandé.
Mais...
Comme ça on n'est pas d'accord.
Vous dites le dragon géant, Manon.
Oui, mais c'est trop simple.
Chine, dragon, c'est une bonne réponse, Manon. C'est le dragon géant qui fait trembler la Terre. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la question. Partons à présent en Sibérie. Même si les livres d'histoire russes les plus récents disent que les tremblements de terre n'existent pas, ce sont en fait des bombes ukrainiennes très puissantes livrées par ces bourses molles de l'Union européenne, la tradition slave la plus ancienne a eu une autre explication pour les séismes. Laquelle? C'est Stalinovitch, le grizzly géant de l'Oural qui se frotte le sif contre un arbre? La terre se trouve dans un traîneau appartenant au dieu Tult, tiré par des chiens qui ont des puces. Lorsque les chiens s'arrêtent pour se gratter, la terre tremble. Ou c'est la colère implacable de la déesse Marianoshka, quand il n'y a plus de vodka.
B.
Ouais. C'est allé un peu plus vite du côté de Quentin, j'ai l'impression. Pour une fois, la vivacité a été de ce côté-là. Effectivement, réponse B en Russie, c'est le dieu Tult.
C'est
le dieu Tult qui est la cause des tremblements de terre. À noter que lorsque la Marianoshka arrive à court de vodka, c'est aussi une catastrophe naturelle, mais d'un autre genre. Enfin,
mais gin, vodka, le vent, vraiment j'aime tout en fait.
Oui, j'essaie d'être exhaustif. Enfin, pour finir,
le porceau aussi.
Pour finir, revenons à l'essence de cette émission, aka le gai savoir, inkni epistemi en grec. Et pourquoi le grec? La suite va vous étonner. Car d'après Aristote, qui n'était pourtant pas la moitié d'un con, selon l'expression de Marceline Courade, la grand-mère de Pierre, d'après Aristote, les tremblements de terre et les vents ont la même cause. Les tremblements de terre et les marées ont la même cause. Ou les tremblements de terre et les arcs-en-ciel ont la même cause.
Ah, ça c'est dur.
Ah, j'ai envie de dire A, mais je vais dire C.
C'est tout le génie de la Marianoche.
Moi, je vais dire A.
Ah oui, c'était vraiment un coup de génie, Manon, puisque c'était effectivement la réponse A. Alors, je vais essayer d'être concis, vous êtes en fin de quiz, vous êtes épuisé. Grosso modo, selon ce bon vieux Aristote,
n'abusons pas.
La Terre dégagerait une sorte de vapeur sèche, le pneuma, lié à son feu interne et à la chaleur du soleil. Si le pneuma s'évacue à l'extérieur, ça crée du vent. S'il s'évacue à l'intérieur, ça crée des tremblements de terre. Vous n'avez rien compris, mais néanmoins, c'est quand même...
Non, c'est clair.
Qui remporte le quiz?
C'est moi.
C'est Manon qui remporte, c'est moi, mais laissez-moi donner la réponse.
J'avais compté.
Mais pas à vous dire que vous avez gagné.
L'arc-en-ciel de Zoom Zoom Zen.
Vous êtes l'arc-en-ciel de cette émission, c'est vrai. Qu'est-ce qu'un essaim sismiques. Pourquoi faut-il s'en méfier? Le sismologue Guy Sénéchal est avec nous dans Zoom Zoom Zen, toujours en duplex du studio d'ici Berne Bigorre. Guy, est-il possible aujourd'hui, en 2025, tout simplement, de prévoir des séismes? D'après ce que vous me disiez tout à l'heure, j'ai l'impression que non, il ne peut pas y avoir de Météo France des séismes.
Non, si on parle de prévision à court terme, c'est-à-dire être capable de dire où, quand et avec quelle magnitude aura lieu un prochain séisme, la réponse est non. On n'a aucune méthode suffisamment fiable.
Même l'intelligence artificielle, elle ne peut pas aider aujourd'hui?
Ah non, 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 l'intelligence artificielle, elle ne va faire qu'accélérer notre réflexion, elle va nous aider à analyser un plus grand nombre de données, à pouvoir trier ces données, etc. Mais en aucun cas, elle ne va nous permettre de prédire l'avenir.
Et Guy, tout à l'heure, vous disiez, chaque pays a son big one. C'est vrai que, comme il y a 20 000 films catastrophes sur la question, on voit toujours Los Angeles, il y a plein d'endroits où il y a des failles, comme ça, il y a plein d'endroits où il peut y avoir un big one. Ça serait où le big one en France, s'il devait y en avoir un?
On a 3-4 zones sismogènes, c'est-à-dire qui génèrent pas mal de tremblements de terre. Les Alpes, les Pyrénées, le fossé rhénan, c'est-à-dire l'Alsace. Et puis on en parle moins souvent, la bordure sud de la Bretagne. Il y a 18 mois, on avait eu le séisme de la Laigne, du côté de Niort, qui a surpris beaucoup de monde. Mais quand on regarde un petit peu l'histoire sismologique de notre métropole, on a déjà eu des séismes relativement puissants dans ce secteur.
Si je vous suis, Guy Sénéchal, vous dites ce qui fait la différence entre un séisme, c'est le lieu d'habitation, s'il est adapté à trembler avec la Terre ou non. C'est la différence entre le Japon et Haïti, j'imagine.
Alors, en fait, là, à travers votre question, ce qu'on aborde, c'est la question du risque sismique. Le risque sismique, il dépend de deux choses. Il y a l'éventualité d'avoir un séisme, donc là, on est en train d'en parler. Il y a des régions où il n'y a aucun danger d'avoir le moindre séisme, et des régions où il y a beaucoup de tremblements de terre. Et puis, il y a autre chose qui définit le risque, c'est notre vulnérabilité. L'enjeu et la vulnérabilité. C'est-à-dire que dans une région où il n'y a strictement personne, ou dans une région où il n'y a aucune industrie, où il n'y a strictement rien à casser, les plus gros tremblements de terre ne produisent aucun risque. Et inversement, si on a une population particulièrement mal préparée, des habitats particulièrement vulnérables, particulièrement fragiles, on n'a pas besoin d'avoir de forts séismes pour avoir une catastrophe.
Vous pensez qu'on pourrait avoir des migrants sismiques, on le disait tout à l'heure dans le micro-trottoir?
C'est-à-dire?
Des zones qui seraient plus habitables à cause du nombre de séismes à répétition?
Non. Non. On voit très bien que, par exemple, si on prend le volcanisme, même après d'incroyables éruptions volcaniques, les populations reviennent. On aime le pays où on est né, on aime la région qui est la nôtre. Non, ce qui est beaucoup plus simple, c'est de s'adapter. Et ça, c'est très facile pour les tremblements de terre. On peut faire en sorte que lorsqu'un tremblement de terre a lieu, tout se passe bien. Pour caricaturer un peu, prenez la fête foraine. Vous montez dans un manège, vous faites secouer et tout se passe bien. Pourquoi? Parce que vous montez dans une structure qui a été conçue pour, qui a été entretenue. On vous donne les consignes, on vous dit comment vous comporter lorsque ça va se mettre à bouger. Et surtout, vous êtes informé, vous savez ce qui va se passer. Vous appliquez ça au risque sismique et c'est la même chose.
Mais il faut qu'on nous l'enseigne tout ça, du coup.
Exactement, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Si je prends encore une fois la région des Pyrénées, où on va sans doute y venir, le risque sismique est omniprésent, eh bien, vous avez à Lourdes un centre d'information qui malheureusement est unique en France, le épicentre, le centre de connaissance, la maison de la connaissance du risque sismique, où les gens peuvent venir s'informer sur ce qu'est un séisme, ce qu'est le risque sismique, il y a un simulateur et on peut vivre l'expérience d'un séisme. On intervient dans les établissements scolaires régulièrement pour informer les jeunes, on fait des conférences, il y a des films. Allez sur YouTube, vous cherchez la tectonique du futur et vous avez un film sur la sismicité des Pyrénées. Donc la communication, oui, elle monte en puissance depuis déjà de nombreuses années. Mais comme je le disais tout à l'heure, paradoxalement, on manque de séismes suffisamment marqués pour que les gens y fassent attention.
Eh oui.
On parle un peu dans le vide. Voilà.
Vous écoutez France Inter, je ne sais pas quelle heure il est, certainement au moins une avant le Big One.
On n'espère pas, quand même.
L'heure de découvrir maintenant l'autre personne à suivre.
Oui, je vous présente Lauriane Galthié. Elle a 42 ans, elle est française et elle est photographe chasseuse d'orage. Une passion insolite qui ne lui vient pas de nulle part. Lauriane est diplômée d'un master gestion des catastrophes et des risques naturels. Après l'avoir obtenue, elle a occupé le poste de prévisionniste au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Autrement dit, elle devait anticiper les événements météorologiques pour plus d'efficacité. Dans un portrait que Le Monde lui consacre, elle raconte que c'est un événement durant son enfance qui lui a donné l'envie d'étudier la météo. En 1988, elle a 7 ans et sa ville de Nîmes est frappée par des inondations qui font 9 morts. Elle est enfermée dans sa maison avec sa famille. Je me souviens, il y a eu au moins 3 mètres d'eau dans la maison. On a été pris au piège et j'ai eu besoin de comprendre ce qui nous était arrivé. C'est pour ça que Lauriane Galthié a commencé à parcourir des milliers de kilomètres dans toute la France, dans le monde entier, pour prendre en photo des orages et en particulier les éclairs de ces orages, des clichés qui sortent de l'ordinaire, qui sont assez impressionnants. Lauriane, pour ça, elle a développé une méthode bien à elle, un petit boîtier qui se clipse sur son appareil photo et qui capte les changements de lumière. Il prend automatiquement une photo à chaque changement. Puis elle choisit un lieu qu'elle repère à travers les prévisions météo. Elle fait attention à ce qui est bien du réseau et un chemin pour repartir en cas de problème, car il y a déjà eu des incidents. Tim Samaras, l'un des chasseurs d'orages les plus connus au monde, a été tué par une tornade avec deux de ses collègues alors qu'ils étaient en train de prendre des photos. Aujourd'hui, on estime le nombre de chasseurs d'orages français à plus de 500. Sur les réseaux, beaucoup d'amateurs partagent leurs conseils et leurs expériences. L'un des plus connus, on l'a reçu ici avec son chapeau de cow-boy.
Serge Zaka,
ce fameux Serge Zaka qu'on embrasse. Une tendance sur laquelle surfe aussi le cinéma. L'année dernière, il y a eu un remake du film Twister, un film catastrophe qui parle cette fois-ci d'un groupe de chasseurs de tornades.
Pourquoi faire un remake d'un film aussi parfait que Twister? Franchement, il n'y avait pas besoin de le refaire. Merci Manon. Guy Sénéchal, ces scénarios catastrophes, moi, ça m'évoque ce qui s'est passé l'autre jour à Nice. La terre a tremblé, ma mamie a eu très peur. C'est pourtant pas une zone sismique très importante, la région de Nice.
Ah si, tout à fait, oui.
Ah bon?
Oui, nous sommes sur la partie sud de l'arc alpin, et l'arc alpin est une activité...
D'accord, tout à fait. Quand vous disiez les Alpes tout à l'heure, ça descend, oui, jusque-là.
Ah oui, on a des sismes qui rejoignent jusqu'à la Corse, c'est...
Mais attendez, il ne pourrait pas y avoir un tsunami un jour quand même à Nice ou en Corse?
Ah, il y a déjà eu des tsunamis.
Déjà eu, quand ça?
Oui, au début du XXe siècle, du côté de Menton.
Mon Dieu.
Alors, ces tsunamis ne sont pas liés à l'activité sismique alpine. Ces tsunamis sont liés au fait que la bordure nord de l'Afrique est sismogène. Il y a de forts séismes au niveau de la bordure nord de l'Algérie, entre autres. Et ces séismes peuvent provoquer des tsunamis qui traversent la Méditerranée. Oui.
Donc, on se prépare.
Faut vendre la maison, Mathieu.
À cette éventualité. Heureusement, je rassure nos auditeurs, le restaurant, le Mirazur, une bonne adresse à Menton, est situé sur les hauteurs. Le tsunami n'arrivera pas jusque-là. Réservez vite. À suivre. Vous n'avez pas tout suivi de ce qu'on a raconté sur les essaims sismiques. Vous croyez toujours qu'il n'y a qu'un type de tremblement de terre, malheureux que vous êtes. Ne ratez pas le récap de Pierre Courade, le local de l'étape, puisque je vous rappelle que Pierre est de Lourdes. Mais d'abord, accueillons celui qui vient de nous rejoindre tout juste en studio. Bonjour, Hakim Vidal. Quel plaisir.
Non, c'est Karim Duval,
mais ça fait tellement longtemps que tu n'es pas venu, j'ai oublié.
Ben oui, c'est sûr. Alors moi, Mathieu, là, vous allez m'entendre 3 semaines d'affilée, donc je crois qu'on peut parler dessin humoristique.
Ah.
Attention, blague de magnitude 7 sur l'échelle de Richter.
Exactement.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Quand il était interne au lycée de Bétarame, il s'était fait la réflexion que vraiment, ça secouait beaucoup la nuit du côté de Lourdes. Il mettait ça sur le compte de l'activité sismique de la région. Ce n'est que plus tard, grâce à Mediapart, qu'il a compris.
Oh.
Bonjour Pierre Courade.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Pierre, chaque après-midi, vous nous résumez tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono.
Et on a tout compris cet après-midi sur les essaims sismiques, des tremblements de terre qui bourdonnent évidemment. Le sismologue Guy Sénéchal était en duplex des Pyrénées, région qui cumule le double avantage d'être la plus belle de France et la plus intéressante d'un point de vue sismique. Ça bouge beaucoup dans les Pyrénées, pas seulement à La Mongie ou à Lourdes, où se trouve une super maison des séismes. Des essaims sismiques se propagent régulièrement. Ce sont des successions de tremblements de terre qui peuvent durer plusieurs heures, voire plusieurs jours ou plusieurs semaines, comme ce qu'on a vu sur l'île de Santorin en février, par exemple. Mais au-delà de l'observation pure, il reste assez compliqué pour les sismologues de comprendre l'origine de ces essaims sismiques. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas des répliques à un séisme, mais une série de tremblements de terre, la plupart du temps de faible intensité. L'explication avancée par les les scientifiques, c'est la présence de fluides, de l'eau, du pétrole, du gaz dans le sous-sol qui perturberait les contraintes naturelles. Et dans contraintes naturelles, on entend aussi les mouvements naturels du sous-sol. Les tremblements de terre sont permanents, mais parfois l'homme peut provoquer des séismes lorsqu'il manipule lui-même des fluides. On y revient. C'est ce qu'on appelle l'origine anthropique du séisme. Manon, qui manipule les fluides en permanence, en fait souvent l'expérience. Son petit copain ne s'y est pas trompé. Lui qui dit aujourd'hui qu'il a trouvé sa big one.
Oh, c'est beau.
C'est beau.
J'ai cru que ça allait terminer sur du graveleux,
j'ai
c'était du romantique.
Peur.
Moi aussi, mais j'ai barré
ah, ah d'accord, vous avez remplacé
ma confusion d'origine.
Merci Pierre.
Bien, Pierre.
Karim Duval, vous, il paraît que lorsque on vous a donné le thème de l'émission, vous avez tout de suite vu le mal.
Ah oui, moi en ce moment, l'actu m'obsède. Alors quand on m'a dit essence sismique, j'ai tout de suite pensé micro-secousse, signaux faibles, annonciateurs d'une troisième guerre mondiale. Hein, je ramène tout à ça. Hein, l'autre jour, à la montagne, ma fille de 5 ans me dit « Oh, regarde papa, c'est tout blanc !» Je lui dis « Ouais, tu m'étonnes avec tous ces suprémacistes. On fait une bataille de boules de neige. L'effet boule de neige, parlons-en. Au début, c'est une boule, puis une balle de fusil, puis une bombe, une pluie d'obus, notre maison détruite, c'est ça que tu veux ? On fait un bonhomme de neige ? Bonhomme de neige ? Non, on joue à pyramide, en deux briques, carottes, orange, cheveux, Trump, ça c'est ma fille. Alors Alexia de la rédaction m'a dit « Karim, détends-toi, on va vraiment parler sismologie. » Soit. Donc Zoom Zoom Zen, c'est devenu C'est pas sorcier. Alors Mathieu, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Je ne sais pas, on pourrait demander à Cyril. Hé hey, Cyril, t'as une idée pour l'émission d'aujourd'hui ? Bah non, tu vois bien que je suis en crocs en vacances dans le Béarn, le pays de mon idole, François Bayrou. On ne va tout de même pas faire une émission sur François Bayrou. On a déjà fait une émission sur les organismes unicellulaires fossilisés. Hé hey, mais Cyril... Pourquoi tu trembles ? C'est l'âge ? Non Mathieu, rien à voir, c'est un mini-séisme. Les mini-séismes, en voilà une idée d'émission. On arrive ! Les essences sismiques, j'ai connu quand j'étais petit au Maroc. Alors chanceux que je suis, je n'ai connu que les petites secousses. Hein. C'est la même sensation que quand t'es dans le métro à Paris, mais sans les odeurs. Et au passage, une pensée pour les victimes du tremblement de terre de 2023. Alors quand t'es gamin, on te dit le premier truc à faire en cas de séisme, c'est de se mettre sous la table, hein, comme dans le Béarn, en tout cas à Notre-Dame de Bétarame.
Oh
ils sont à cheval sur la sécurité des enfants. Je suis sûr que Pierre Courade et Guy Sénéchal confirment cette info. Guy Sénéchal, spécialiste des tremblements de terre dans le Béarn, avec qui nous sommes en duplex, parce que Guy ne veut pas rater la moindre secousse. Hein. Hors de question qu'il vienne à Paris, t'imagines la mousse. 8 ans qui bouge pas de chez lui, assis sur un pot de chambre, le Guy. En attendant peut-être un plus grand séisme. Et là, dring dring, bonjour, c'est Mathieu Noël. Ça vous dirait de venir dans Zoom Zoom Zen ? J'ai une folle envie de parler des essences sismiques. Guy se dit quand même, c'est Mathieu Noël. C'est pas Léa Salamé, mais c'est quand même Mathieu Noël. J'y vais. Et là, bim ! Un tremblement de terre a fait 2000 morts dans les Pyrénées-Atlantiques. François Bayrou a sauté dans un jet privé pour se rendre à Mayotte. Guy Sénéchal, on dirait nous, devant notre smartphone, à surveiller les notifications H24, tu sais, comme si on entendait le grand événement qui va bouleverser notre vie. France Inter augmente les salaires. Ah non, c'est juste ma meuf qui me demande d'acheter le pain. D'ailleurs, si ça se trouve, les platistes, ils voient la Terre comme un smartphone, en mode vibreur. Quand il y a un séisme, c'est que la Terre reçoit un message d'une autre planète. Et un essence sismique, c'est quand le système solaire s'excite sur le groupe WhatsApp Barbuck de l'espace. Hein, Jupiter est là. Bon, le Soleil. Oui, Jupiter, il donne des ordres au Soleil. Dans la galaxie, on le surnomme Macron. Le Soleil, tu gères le feu. Ok. Pluton, moi j'apporte tout ce qui est froid. Salade, taboulé. Saturne, ce festin, je vais me faire placer un anneau gastrique. Uranus, j'en pète de rire. On rigole plus aux blagues de Prout qu'au calembour d'astronomie. Regardez, ça tremble. Guy Sénéchal, non, c'est pas un P, c'est une manipulation de fluide qui peut provoquer un séisme. Alors qu'on le sait bien, si ça vibre, c'est que la Troisième Guerre mondiale a éclaté.
Merci Karim Duval, sacré Karim. On vous retrouve très bientôt dans Zoom Zoom. Merci Guy Sénéchal de nous avoir expliqué les essences sismiques. Encore un mot qu'on va pouvoir caser dans les dîners. Un grand merci aussi aux équipes d'ICI Béarn Bigorre à Pau, grâce à qui ce duplex a été possible. Belle région que le Béarn, qui a vu naître mon papounet. Mais pas le temps de s'émouvoir, le gai savoir ne connaît pas de répit. Zoom Zoom Zen revient juste après le journal de 17h pour dérocher l'actu du jour à travers ses sujets les plus concernants. Vous apprendrez entre autres que les hommes émettent 25% de CO2 en plus que les femmes, et c'est pas seulement parce qu'ils prennent plus de chili con carne à la cantine. Et mais surtout cet après-midi, Cyril, ne riez pas tout de suite, surtout cet après-midi, on reçoit celui que j'aime tellement que je pensais qu'on l'avait déjà reçu, mais non, j'avais juste dîné avec lui. L'ancien ministre de l'Europe, Clément Beaune, a désormais un nouveau job au commissaire au plan, mais sa vraie passion, moi qui le connais, je peux vous le dire, c'est l'Eurovision, comme il vous l'expliquera lui-même, puisqu'il est notre invité jusqu'à 18h.
Zoom Zoom Zen.